Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences dirigé par David Mascret, diffusé en direct vendredi 13 juin 2008 de 18h à 21h, en différé samedi 14 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans mon libre journal des sciences. Libre journal des sciences, aujourd'hui consacré à une rétrospective qui sera en même temps une prospective, tournée autour de ce que j'ai ironiquement appelé l'anniversaire de juin 68. Juin 68, quel héritage? Que reste-t-il de juin 68? Science, recherche, industrie, université, quelles ont été les conséquences du mouvement de mai et surtout des suites du mouvement de mai dans les années et les mois et les années suivantes sur notre appareil de recherche et d'industrie française. Pour en parler aussitôt aujourd'hui, à mes côtés, Pierre Chiquet. Pierre Chiquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre fondateur du Centre spatial de Kourou. Vous êtes ingénieur spécialisé dans les questions d'aérospatiale et d'aéronautique. Vous avez été président de GIAT Industries. À vos côtés, pour parler également de cette question, François Sellier. François Sellier, vous
Bonjour.
Êtes écrivain, témoin de cette époque, et vous venez de faire paraître, en avant-première, avant parution définitive au mois de septembre 2008, mai 68, 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle. C'est à ce titre de témoin de cette époque et d'analyste rétrospectif de cette période que je me permets de vous faire venir aujourd'hui dans cette émission consacrée aux sciences, à la recherche et à l'université. Pour commencer tout de suite, je me tournerai vers vous, Pierre Chiquet, qui est l'aîné de cette assemblée, pour vous demander en filigrane quels souvenirs vous gardez de cette période située juste avant mai 68, quelles fonctions occupiez-vous à l'époque et sentiez-vous ce qui pourrait advenir dans ces mois troublés du début, le mois de mai, du début de l'année 68, puis de juin, septembre, décembre 68.
Ben, pour nous, ça, on n'avait rien à venir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais au Centre national d'études spatiales, et le Centre national d'études spatiales avait été créé début 62, et nous étions engagé vraiment dans une course de poursuite pour essayer de ne pas perdre le niveau, de ne pas perdre le train qui partait avec les Russes et les Américains dans le domaine spatial. Et donc nous avions d'autres soucis que nous préoccuper de la situation française proprement dite. Nous étions des jeunes. Moi, j'avais à l'époque, quand je rentre au Centre national d'études spatiales, j'avais 31 ans, donc les gens que j'ai embauchés étaient des gens qui étaient jeunes. Donc nous étions partis sur un programme ambitieux fixé par le général de Gaulle, qui était d'essayer de se tenir au niveau de ce que les Russes et les Américains étaient en train de faire. Donc nous étions très peu, on s'intéressait peu à ce qui se passait dans la société française. Par contre, donc c'est tombé sur nous comme un couperet, brutalement, et c'est rentré chez nous, comme dans d'autres établissements, d'une façon brutale. Ça a été la chienlit, je dirais, du jour au lendemain. C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a eu une effervescence, il y a des gens qui sont mis en grève immédiatement, sans savoir trop ce qu'ils faisaient. c'était un organisme qui était orienté vers la recherche, vers vraiment le 100% de réussite, etc. Et d'un seul coup, on fiche la pagaille. On fiche la pagaille, donc plus d'autorité, plus rien du tout. Nous étions dirigés à l'époque, enfin, le créateur du CNES, qui était le général Houbinière, qui était un homme tout à fait remarquable, avait jamais eu de responsabilité dans le civil, donc les problèmes sociaux qui se présentaient pour lui étaient tout à fait nouveaux, et il a laissé un petit peu, il était à Paris, et il a laissé un peu le centre de Bretigny, où nous étions, se débrouiller tout seul. Alors ça a été un peu n'importe quoi, des réunions sans fin. Et in fine, quand la direction est intervenue, elle a organisé des commissions, à l'époque c'est ce qui se passait, et dans lesquelles d'un côté vous aviez la moitié de la commission qui était tenue par les directeurs, et l'autre moitié par des élus du peuple. Et ces commissions étaient chargées de discuter des attributions des directeurs. Voilà à peu près d'un seul coup, c'est tombé comme ça. Donc c'était vraiment épouvantable, hein.
Une inversion totale de la règle de décision.
C'est totalement, ça remettait en cause.
La base, évidemment,
dans la base, il y avait des jeunes qui étaient les moins bons, forcément, puisque ceux qui étaient bons, ils avaient envie de travailler, ils n'avaient pas tellement envie de faire la foire. Et c'est ceux-là qui commençaient à remettre en cause les attributions des directeurs, etc., etc. Bon, faut voir, c'était il y a 40 ans. Et là-dedans, dans les directeurs, il y en avait qui étaient plus ou moins réguliers, et en particulier, j'en connais un, qui a été soudoyé les représentants du personnel pour se faire attribuer des attributions plus importantes. Vous voyez à peu près le climat dans lequel on était. Donc, moi, je garde un souvenir catastrophique de cette période-là, qui a duré un certain temps. Ensuite, il y a des commissions, on a créé des quantités de commissions sur tel sujet, etc. Bon, tout ça, ça a duré pendant un certain temps, puis après, c'est retombé comme c'était venu. Mais ça a laissé des traces profondes dans un organisme qui était de création récente, puisque quand je suis rentré au CNES en 62, on était 5, et quand est arrivé 68, on était 900. Donc on voyait bien...
Une croissance exponentielle.
Et uniquement avec des jeunes qu'on avait formés, etc., etc. Donc ce travail de formation, de course dans le domaine technique, etc., qui était très important, tout d'un coup, on est venu jeter un espèce de pavé dans la mare, complètement absurde, et nous, ça nous a laissé, effectivement, des problèmes qui se sont répercutés ensuite, et qui a créé une crise très profonde. Ajouté à la position de Pompidou, dont on pourra parler plus tard, après si vous voulez, qui est très importante, où Pompidou a cassé la recherche. Pompidou était un normalien, lettre, c'était un homme qui venait de la banque, il était chez Rothschild, qui comprenait pas grand-chose à l'économie, et qui a décidé... Il a fait comme aujourd'hui. Si aujourd'hui, tout le monde demande des résultats rapides, alors qu'on a 30 ans de laxisme, on veut des résultats le lendemain matin. Et à l'époque, c'était pareil. On voulait des résultats rapides. C'était la génération qui a fait mai 68, c'était des gens qui avaient 20 ans, qui n'avaient pas connu la guerre, qui n'avaient pas connu les difficultés que nous avions connues, nous.
Qui n'avaient pas participé à la reconstruction et qui
voulaient récupérer les bénéfices de ce qu'avaient fait leurs parents. C'est exactement comme ça que se situe la situation. C'était la situation. Bon, alors Pompidou a eu le mérite d'arrêter la révolution.
Nous allons venir à Pompidou.
Mais après, il n'a pas fait ce qu'il fallait, voilà.
Nous allons y venir, évidemment, toute cette deuxième partie est consécutive à juin 68, est absolument décisive, puisque c'est elle qui, en quelque sorte, va, nous allons essayer de le montrer, constituer la véritable révolution, mais révolution cachée, exercée en sous-main, tout au long de ces années post-gaulliennes, tout au long de ces années pompidoliennes. Nous allons essayer de le montrer. Mais avant, j'aimerais savoir, et vous êtes un témoin de cette époque, ce que représentait ce cadre, ce pacte en quelque sorte entre la nation et la recherche, entre la nation et les scientifiques, tel qu'il s'était constitué à l'époque gaulliste, sous de Gaulle, au moment de la création du CNES en 1962. Qu'est-ce que ça représentait être chercheur à cette époque? Qu'est-ce que représentait l'engagement dans la science?
Ben, si vous voulez, je crois qu'il faut, on va venir un petit peu en arrière. Nous avions eu une guerre catastrophique. À la fin de la guerre, on était dans une situation désastreuse, qui n'a rien comparable avec ce que c'est aujourd'hui, puisqu'on n'avait plus d'argent, on était démoralisé, la France était coupée en deux entre les collaborateurs, ceux qui n'étaient pas, etc.
2 millions de prisonniers qui reviennent.
Donc il y a eu après ça un mouvement formidable de reconstruction, où l'initiative privée était sans contrainte, où on a vu fleurir des dans le domaine de l'aviation, par exemple, des quantités de prototypes qui étaient dans les cartons avant la guerre, d'ailleurs, puisque la France est un des pays certainement un des plus innovateurs au monde. Hein, et en 38, nous avions le meilleur avion du monde, nous avions le meilleur char du monde, mais comme disait Goering, vous avez le meilleur avion du monde, mais vous en avez qu'un. Voilà à peu près la situation de la France avant la guerre. Bon, on n'a pas vu arriver la guerre, on l'a pas préparée, on aurait très bien pu la préparer, et on avait ce qu'il fallait pour le faire.
C'est-à-dire qu'on avait les idées, mais on n'avait pas les fabrications en série, on n'avait pas l'industrialisation.
Non, il n'y a pas de décision politique, on n'a pas pris au sérieux la menace allemande, etc., etc. Mais on avait tout pour le faire. Et aujourd'hui encore, on peut comparer les deux périodes, et aujourd'hui, on a encore tout pour le faire. Le problème, c'est la volonté politique. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on a une volonté politique, on va voir. Mais à l'époque, il n'y a pas eu de volonté politique. C'est pour ça qu'on a perdu la guerre. Mais après la guerre, il y a eu une espèce de renouvellement fantastique et une explosion, et en particulier les services d'État, les services techniques d'État ont été extrêmement brillants. Ils sont par nature très poussés vers l'avenir, les services d'État. Et ils ont poussé les créations au maximum. Et même beaucoup de gens des services d'État sont passés, ont créé leur propre entreprise, etc., etc. Ça a été une période absolument fantastique. Qui a duré jusqu'à 58. Et à ce moment-là, mais c'était une telle pagaille, c'était très créatif, mais une telle pagaille, ajoutée avec la guerre d'Algérie, que ça a amené l'arrivée de De Gaulle. C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui arrive pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'était ça, un petit peu, l'arrivée de De Gaulle.
Est-ce qu'on peut illustrer un petit peu, sur cette période 1945-1958, quelques-unes des grandes réalisations de la science ou de la recherche, en particulier aéronautique, aérospatiale?
Bon, tout est reparti, on était à zéro, tout était démoli, la France était détruite. Donc, dans tous les domaines, les ingénieurs, les techniciens, etc., se sont mobilisés pour... Ça a touché tous les domaines. C'était le nucléaire que De Gaulle avait démarré en 45. Ça a été l'aéronautique avec... On a sorti tous les prototypes des cartons. Il y avait le Duc, à l'époque, le Duc, il y avait ce Stato extraordinaire, il y avait tous les avions mixtes, Stato, il y avait toute une floraison. Ça partait de tous les sens, si vous voulez. On a créé le centre de Colombéchard en 47. Le centre de Colombéchard était fait pour développer toute la nouvelle armée française à partir c'est les débuts des missiles. On a commencé à expérimenter. Alors, évidemment, on avait l'expérience de Peenemünde et ce que les Allemands avaient fait avec le V2, etc. Après la fin de la guerre, les Américains, les Russes, les Anglais, les Français ont récupéré des ingénieurs à Peenemünde. Et en France, dans les industries françaises, on a retrouvé les Allemands à la SNECMA, on a retrouvé les Allemands à Noraviation, etc. Et Véronique, par exemple, a été conçue par une équipe allemande à Vernon, qui est partie de son expérience sur le V2. Oui.
Rappelez-nous ce qu'était Véronique.
Pardon ?
Rappelez-nous ce qu'était Véronique. Ben,
Véronique, c'était un petit engin, qui avait 4 tonnes de poussée, qui n'était pas très important, mais qui permettait de lancer une fusée qui montait à 150 km. C'était le début, tout à fait. C'était hérité de ce que les Américains, de ce que les Allemands avaient fait à Peenemünde. Si vous voulez. Bon. Puis à partir de là, il s'est petit à petit créé des spécialistes, des programmes, etc. Et aujourd'hui, les propulseurs d'Ariane viennent de Vernon à l'origine. Oui.
De cet effort engagé il y a plus de 60 ans maintenant, sortir même de la guerre.
Absolument, ça a commencé aussitôt en 45.
On peut rappeler également les grandes figures effectivement de Joliot-Curie, la création du CEA, la recréation du CNRS en 1945, avec tout un appareil de recherche, un appareil scientifique de pointe qui, comme le N de CNRS l'indique, est d'abord un appareil national, c'est-à-dire qui est au service de la nation et de sa reconstruction.
Absolument, mais tout ça existait déjà, les équipes existaient déjà avant la guerre. Hein. Le nucléaire est quand même, c'était quand même, la France était très dans le coup actuellement des problèmes nucléaires avant la guerre.
Oui, donc enfin, on peut rappeler quand même que...
On n'est pas parti de zéro, on est parti de compétences qu'on avait avant la guerre, qu'on a ressorti des cartons et des gens qui ont foncé, voilà.
Bien sûr, mais... N'y a-t-il pas une spécificité de 1945 comme de 1958 qui est justement cette concentration de l'effort? C'est-à-dire que, effectivement, Irène Joliot-Curie est nommée pour la première fois en 1936 dans le gouvernement de Léon Blum avec une responsabilité sur les questions de recherche, mais le grand effort de relance, la création du commissariat à l'énergie atomique, c'est vraiment 1945, c'est au lendemain de la libération.
Oui, c'est De Gaulle qui a créé effectivement le CEA parce qu'il avait senti que le nucléaire était quelque chose de qui avait de l'avenir. C'était là où on reconnaissait la puissance de cet homme. Et il a créé le CEA à ce moment-là. Pourquoi? Et en fait, les choses se sont surtout organisées à partir de 58, quand il a mis des organisations auprès de toutes ces choses qui étaient un petit peu parties dans tous les sens. Bon, c'était un peu décousu, c'était très prospectif, mais c'était un peu décousu. Bon, le fait de créer le CEA, puis ensuite le CNES, etc., a fait qu'on a pu, autour d'équipes organisées, avoir des vrais programmes. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait gardé des équipes qui partaient dans tous les sens, à droite et à gauche. Alors, c'était très imaginatif, mais ça ne créait pas une politique industrielle, une politique économique pour la France.
Avec déjà aussi cette spécificité propre à la situation française qui était que les universités étaient trop facultaires en quelque sorte, trop centrées sur une discipline pour pouvoir assumer justement l'interdisciplinarité propre à une recherche de pointe, pour pouvoir mener de front une recherche sur plusieurs technologies, sur plusieurs secteurs demandant en particulier beaucoup de budget.
Ben, le problème de l'université, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est que on a toujours par les syndicats qui ont été vraiment les tenants de tous les postes.
Pour cette période de 1945-1960.
Les communistes étaient déjà très implantés dans les universités. Avec Mitterrand, ça s'est encore amélioré, si j'ose dire, de ce point de vue-là. Mais il était interdit de parler à l'industrie. Et encore aujourd'hui, moi j'ai des amis dans l'université, c'est parler avec l'industrie, c'est parler avec le diable. Donc on voit bien que l'industrie ne pouvait pas vraiment se lancer dans une perspective au niveau du pays, si vous voulez. Hein. Alors chacun faisait son petit truc. C'est le problème du CNRS, c'est que chacun fait son truc dans son petit coin, sans se préoccuper du voisin, et surtout en ce qu'on vienne pas le déranger. Or, même si la recherche doit avoir une grande liberté d'action, il faut quand même qu'il y ait des axes qui soient fixés pour savoir qu'on n'aille pas n'importe où.
Mais alors précisément, effectivement, cela signifie-t-il qu'il y a eu, dès 1945, une sorte de partage de Yalta avec, comme on l'a dit à certains moments, la droite à l'argent, la gauche à les idées, la gauche à l'université, la droite à l'industrie?
Vous savez qu'après la guerre, la droite, la gauche, les gouvernements changeaient tous les deux mois. Tous les deux mois, j'exagère, mais c'était quand même assez rapide les changements. Donc on peut pas dire que la gauche ou la droite se différenciaient tellement à l'époque. Hein, c'était vraiment des négociations. Il n'y avait pas de président de la République à l'époque. C'était des négociations de partis. On faisait les gouvernements, on les défaisait. Mais il y avait une telle dynamique du pays dans cette pagaille politique que les choses avançaient, mais avançaient d'une façon absolument dispersée et décousue.
Jean-Louis Cacomo, vous nous avez rejoint très gentiment. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université de Perpignan. Avant de venir véritablement à cette rupture de mai-juin 68, est-ce que vous pouvez nous resituer aussi, de votre point de vue à la fois d'économiste et d'historien des idées, ce qu'a pu constituer ce pacte de 1945, de la reconstruction jusqu'aux années 58? En quoi y avait-il là quelque chose de spécifique à la France, et comment se sont répartis les postes entre gaullistes, communistes, entre la droite et la gauche dans cet effort de recherche? Est-ce qu'on peut parler d'un partage de Yalta, comme je l'évoquais à l'époque, c'est-à-dire, à l'instant, c'est-à-dire l'université serait davantage tournée vers la théorie et aux mains des communistes, et l'industrie plutôt aux mains des entrepreneurs, plutôt à droite, mais plutôt appliquée, sans dialogue entre les deux?
Je ne sais pas si consciemment il y a eu une sorte de partage comme ça. Le fait est, c'est qu'effectivement la France s'est trouvée avec tous les pays qui ont subi la guerre sur leur sol, hein, tous les pays du continent européen, dans une phase de reconstruction. Et avec le recul, on voit que finalement, elle se trouve dans la situation d'un pays émergent, avec des fonds du plan Marshall et une volonté de reconstruction qui fait que Il y a eu un consensus pour sortir de l'économie de guerre, mais avec les outils de l'économie de guerre, avec un fort modèle interventionniste. Mais dans une dynamique de reconstruction qui fait que dans ce contexte-là, ça a fonctionné, effectivement. Ça a permis de, finalement, remettre la France à un niveau qu'elle n'aurait pas dû quitter s'il n'avait pas eu la guerre. Donc il y a eu un phénomène de surcroissance.
De rattrapage.
De rattrapage. Mais sur le moment, n'ayant pas le recul, on a considéré que ces taux de croissance-là étaient des taux de croissance normaux. La croissance était acquise grâce à cet effort de reconstruction, alors qu'en fait, c'était une surcroissance pour rattraper, effectivement, le temps perdu et puis, effectivement, toutes les richesses détruites à l'occasion de la guerre. Mais il y a quand même eu, effectivement, du fait de ce contexte spécifique à la France au moment de la libération.
Contexte de guerre froide, rappelons-le, dès 1947. Les
participations
qui sont exclus.
Il y a effectivement le CNRS qui est quasiment dans les mains des communistes, l'université qui est laissée à la gauche. Donc, dans ce moment-là, bon, l'établissement de la sécurité sociale, il y a des mini-modèles organisationnels conformes à l'organisation soviétique, finalement, qui sont implantés en France, qui sont expérimentés en France, dans un contexte de forte croissance. Donc, j'allais dire, on peut se le permettre, ça fonctionne, et on les trimballe encore aujourd'hui, alors que là, pour le coup, la croissance, on l'a plus. On a épuisé les capacités de croissance, puisque maintenant, effectivement, on est plus, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, après 68, on est rentré dans une autre phase, le rattrapage était terminé, et là, il fallait être innovateur, là, il fallait produire de la richesse, produire de la croissance.
Avec tout de même cette spécificité, effectivement, on va parler des modèles soviétiformes qui ont en quelque sorte marqué les structures universitaires et institutionnelles de recherche françaises, mais avec cette différence que dans l'immédiate après-guerre, en 1945, au moment où il y a relance du CNRS créé en 1939 par Jean Perrin, on a encore une relative souplesse. Les contrats sont à 5 ans. Il y a un certain nombre de chargés de recherche qui peuvent se lancer sur des thèmes relativement innovants. C'est la naissance de l'école des annales en histoire, la naissance de toute la partie de la physique des particules à la française, qui se fait plutôt d'ailleurs au CNRS qu'à l'université, puisque on sait qu'il y a une très grande réticence des physiciens français à accepter un certain nombre de découvertes qui s'étaient faites dans l'école allemande autour de la physique de Heisenberg et de Schrödinger. Mais en quoi ces éléments de souplesse, en même temps que cette centralisation telle qu'elle existait, liée à la planification, a-t-elle permis dans ces années 45, 55, 60, jusqu'au début de la période gaulliste, véritablement une synergie entre science et économie à vos yeux?
Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment synergie, puisque dans cette phase de reconstruction, finalement, et donc de rattrapage, il suffit quasiment d'importer un modèle qui fonctionne par ailleurs, qui est l'American Way of Life, finalement, avec les technologies qui sont déjà en fonctionnement aux États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, le système que vous évoquez est assez performant pour un peu cloner les technologies qui existent et les implanter dans notre économie. Par contre, quand il faut se situer sur ce qu'on appelle la frontière technologique, et là on est dans l'inconnu, il faut innover, c'est plus difficile de justement d'essayer de marquer les directions.
S'il y avait eu juste la question de l'importation du modèle américain, à ce moment-là on aurait eu une croissance uniforme et une reconstruction scientifique relativement uniforme. L'Italie, l'Espagne n'ont pas du tout eu ce même phénomène de rattrapage et ni l'Italie ni l'Espagne n'ont été capables à partir des années 60 de récupérer un certain nombre de prix Nobel, de se constituer une arme atomique, d'avoir une politique énergétique indépendante. Donc il y a bien quand même quelque chose de spécifique à la situation française telle qu'elle s'est développée entre 45 et 1965-68.
Il est clair qu'il y a une volonté, la politique de la France, d'exister effectivement avec la puissance nucléaire. Donc ça va conditionner toute la politique industrielle. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Sur le plan économique, c'est une autre histoire parce que les technologies qui sont développées dans le cadre de ces programmes ont des retombées finalement assez mineures sur le système économique civil finalement. Ça nous enferme dans des technologies qui sont difficiles, qui sont des technologies très lourdes et qui suffit pas à faire tourner une économie basée sur la production et la consommation de masse finalement.
Pierre Chiquet, qu'est-ce qui, au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, puis la présidentialisation du régime à partir de 62, date qui correspond, d'ailleurs vous l'avez rappelé, à la création du CNES et d'un certain nombre d'organismes scientifiques de haut niveau, marque finalement l'apogée de cette sorte d'alliance entre volonté politique, planification, recherche industrielle?
Moi, je dirais pas, je vois pas où était la volonté politique avant l'arrivée de De Gaulle en 58. Il y a dans le peuple français une capacité à innover, à créer, etc., qui est innée en France. Et après la guerre, donc en 45, les industriels qui ne connaissaient pas un projet ont été chercher la technologie aux États-Unis. C'est le cas de Thomson, par exemple, qui était prendre des licences de radars aux États-Unis, qui ensuite, à partir de ça, fait des radars meilleurs que les radars américains. C'est comme ça qu'on est reparti, sans compter les connaissances qu'on avait avant la guerre et qu'on a ressorti, comme tous ces avions, comme le Duc, etc., etc., qui sont sortis avec des gens imaginatifs. Et les gouvernements ont accepté ça. On ne peut pas dire qu'il y avait une volonté politique, mais ils ont accepté ça parce qu'ils sentaient que c'était nécessaire. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait une volonté politique de faire ça. C'est le peuple français, vraiment, dans ses entrailles, qui a d'emblée donné le mouvement de l'action. Et les gouvernements ont suivi. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme ils changeaient régulièrement de tous les 6 mois, s'ils avaient bloqué le dispositif, tout se serait arrêté. Donc je crois qu'il y a un consensus au niveau gouvernemental, que ce soit de gauche ou de droite, pour laisser faire les choses, mais je ne vois pas vraiment une volonté politique de faire les choses. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai.
Est-ce que ce sentiment est confirmé lorsque on envisage par exemple le cas de l'aéronautique et particulièrement de l'industrie d'armement? On sait qu'il y avait quelques acteurs qui ont réussi à se déployer un tout petit peu avant-guerre et surtout au lendemain de la guerre. On pense évidemment à Marcel Bloch d'Assault, on pense à Breguet. À partir d'un certain moment, ces industriels ont quand même acquis une certaine puissance, en même temps qu'une réelle capacité scientifique. Il y a eu toute la question aussi des transferts de technologie vis-à-vis d'autres pays. On peut penser aux accords de partenariat qui existaient entre la France et Israël au moment de la livraison d'un certain nombre de technologies sensibles. En quoi est-ce qu'à un moment ou à un autre, une volonté politique est venue se surajouter à cette libre créativité que vous avez décrite?
Moi, je pense que comment ça s'est passé? En fait, vous aviez des services techniques de l'État qui étaient très forts. Hein, les corps de l'État étaient très forts. Le corps de l'aéronautique, le corps de la marine. Enfin, il y avait des corps étatiques qui étaient très forts, composés de techniciens, de polytechniciens ou autres. Et c'est ces gens-là qui ont poussé la machine de façon à ce que les choses se développent. Et au fur et à mesure que des produits arrivaient à maturité, ils sont même passés dans le civil. Ils ont créé leurs entreprises. En ayant d'ailleurs des contacts avec ceux qui étaient restés du côté industriel, donc il y a eu connexion entre les deux, les anciens. C'était les mêmes qu'on trouvait, ceux qui étaient restés du côté de l'État et ceux qui sont passés du côté industriel. Et c'est cette coopération entre des gens de même milieu qui a permis cette explosion. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, il y a eu des abus, parce qu'il y a des gens qui ont créé une société avec un franc symbolique et qui sont devenus milliardaires parce qu'ils avaient des commandes de l'État faciles. Et c'est comme ça qu'étaient créées certaines entreprises de l'aéronautique que je connais bien. Mais ça a été quand même un mouvement extrêmement... mais c'est venu de la base. Les gouvernements, ils s'occupaient plus de régler leurs problèmes politiques et ils ont accepté, ils ont encouragé et accepté ce mouvement-là. Mais on peut pas dire qu'il y avait une volonté politique d'un gouvernement de France en disant on va faire ça. Je le sens pas comme ça en tout cas.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est sans doute ce qui a permis effectivement à la France de se relever. Voilà. Parce que là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on attend tout de la volonté politique.
Et c'est toute la différence, et c'est là où mai 68 est intervenu, c'est qu'on a cassé cette dynamique. On a remplacé l'initiative collective par l'initiative individuelle, avec toutes les conséquences qu'on a. Alors, on peut décliner à ce moment-là tout ce qui s'est passé dans l'industrie.
Hein. On va y venir, mais... Est-ce que, sur cette période 1945-68, vous voyez les choses plutôt de manière unifiée, c'est-à-dire une sorte de grande continuité dans un esprit d'initiative, une capacité d'innovation que vous venez de nous décrire, ou est-ce que vous distingueriez des périodes entre peut-être une période d'abord de la 4e République, relativement anarchique mais en même temps très productive, très inventive, et puis une période qui serait peut-être un peu plus dirigiste? Est-ce que le retour du général de Gaulle au pouvoir marque un changement dans la politique scientifique et de recherche française? Est-ce que quelque chose de mai 68 est déjà préparé par l'arrivée au pouvoir de De Gaulle ou par ce qui se produit dans les premières années du gaullisme?
De Gaulle, il est arrivé en 45, hein.
Il reste six mois.
Il a quand même créé le CEA, il a quand même mis un certain, il a la sécurité sociale, il a quand même fait un certain nombre de choses qu'on oublie, mais enfin, qui sont quand même très importantes pour la suite. Et ensuite, je vous dis, il y a eu ce mouvement, de liberté des Français pour entreprendre. Et c'est ça qui nous a manqué, ce qu'on réclame aujourd'hui. Et cette liberté des Français pour entreprendre a été très loin, avec des gouvernements qui ont accepté ça, parce qu'ils voyaient bien qu'il fallait reconstruire la France. Donc ils n'ont pas empêché ce mouvement-là. Mais ça a amené une telle pagaille, d'une certaine manière, que la France est devenue ingouvernable à un certain moment. Mais et ça a même continué après. Ce sont les gens qui étaient responsables des techniques qui ont vendu leur programme aux politiques, et les politiques n'ont pas osé les arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas les politiques qui ont dit aux gens, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est l'inverse. Et en France, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment... Aujourd'hui, on est en train de se glorifier de l'aéronautique, du spatial, de TGV, de nucléaire, etc. Mais depuis Pompidou, on en parlera peut-être plus tard, mais depuis Pompidou, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens qui étaient en charge de ces affaires-là qui ont développé contre vent et marée leurs activités en allant faire du lobbying auprès des politiques de façon à ce qu'on ne leur empêche pas de travailler. Quand Giscard d'Estaing est arrivé au gouvernement, comme président de la République, il a arrêté Ariane pendant 8 mois. Il a fallu aller lui expliquer que c'était complètement idiot d'arrêter Ariane. C'est comme ça que ça se passe. C'est les gens du terrain qui vont se battre pour faire comprendre aux politiques ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et c'est encore vrai aujourd'hui.
J'ai bien compris. Mais néanmoins, vous n'avez pas entièrement répondu à ma question. Voyez-vous une continuité entre 1945 et 1965-68, ou y a-t-il plusieurs périodes? Est-ce que la 4e République se distingue de la période gaullienne dans ce rapport entre la science, l'industrie, le rapport à l'innovation? Jean-Louis Cacomo.
C'est sûr qu'il va y avoir une tentative de remise, vous dites, ce chaos. Bon, moi, j'aime assez, parce que finalement, le marché, quelque part, c'est pas quelque chose d'organisé. L'économie se relève et on a l'impression que c'est un chaos. Mais bon, finalement, au niveau global, des grandes directions s'impriment, indépendamment de toute volonté politique. Et effectivement, la France, pendant cette période, va être sur des trajectoires de croissance assez régulières, sans que ce soit forcément voulu par le plan, le commissariat au plan. Mais malgré ça, effectivement, une fois que la reconstruction est entamé, on passe à une phase où l'État essaye de piloter l'économie. Je pense que ça, c'est aussi, malgré la volonté de... vous dites effectivement c'est inné dans le peuple français que de vouloir être libre et d'innover, mais il y a aussi autre chose qui est inné, je ne sais pas si c'est dans le peuple français, mais dans ses élites, c'est la volonté d'enrégimenter tout ça. Et donc de piloter l'économie en fonction d'objectifs qu'on va imposer à l'ensemble du système. Et quand la croissance a été confortée, effectivement, on est rentré dans une phase où on a essayé d'un peu plus centraliser et d'imposer une politique industrielle.
Parce qu'on peut rappeler quand même que tout cela était axé, secondairement, mais de manière tout à fait décisive tout de même, sur l'affirmation d'une politique d'indépendance à partir de 1958. Et cette politique d'indépendance, elle avait évidemment un coût. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, on lui donne les chiffres du budget de la recherche. Il est assez étonné de leur faiblesse. Il dit « augmentez-les-moi ». Alors, les ingénieurs et les responsables des inspecteurs généraux des finances qui travaillent à l'époque au ministère des Finances augmentent de quelques pourcents ce budget de la recherche. Et lui présente à nouveau à De Gaulle. Et De Gaulle barre le chiffre et multiplie directement par 2 ce budget de la recherche. Donc, on sait bien que tout ça pour montrer l'importance que revêtait à ses yeux cette recherche, et en même temps comment, de quelle manière elle devait d'une certaine manière être enrégimentée, être canalisée, parce qu'évidemment pour construire une bombe atomique, pour construire une force de frappe nucléaire, pour construire un réseau d'armement de haut niveau, une politique énergétique indépendante, un plan calcul, il fallait à un moment ou à un autre aussi qu'il y ait une coordination ministérielle, politique, qui s'est exprimé dans le cadre de la planification. Alors est-ce que là, ça n'est pas déjà une première rupture, ou qu'est-ce qui est resté de positif, ou qu'est-ce qui a été, avec le recul, un succès dans cette période de 1958 à 1968, et qu'est-ce qui peut-être considéré davantage comme un échec au point de vue industriel et scientifique.
Non, je crois que d'abord il faut voir que l'industrie était nationalisée, hein, en plus grande partie, hein, l'aéronautique, tout ça c'était nationalisé. Et quand j'expliquais que cette foison qu'il y a eu, puis la pagaille qu'il y a eu, qui a fait que De Gaulle avait eu l'histoire de la guerre d'Algérie, etc., qui a fait que De Gaulle est arrivé. Bon.
Avec des paradoxes quand même. Vous dites l'industrie était nationalisée, mais précisément dans l'aviation, l'industrie d'armement était aux mains d'acteurs privés. Marcel Dassault. Et par contre, l'industrie.
Il n'y avait pas que Dassault. Il y avait quand même tous les arsenaux à l'époque. Il y avait Nord Aviation, il y avait Sud Aviation, il y avait les arsenaux de l'armée de terre, il y avait les arsenaux de la marine. Il n'y avait pas que Dassault.
Non, non.
On parle beaucoup de Dassault, mais enfin, Dassault a fait beaucoup de lobbying pour pousser ces avions, mais on avait bien mieux que Dassault. En particulier, si vous lisez les mémoires de Turca, par exemple, il vous expliquera qu'il a été le premier à franchir le Mach 3 et que son avion n'a pas été développé parce que Dassault a fait du lobbying pour faire passer le sien. Donc, on parle beaucoup de Dassault, mais il y avait bien d'autres choses que Dassault à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce que je veux dire, c'est que De Gaulle, quand il est arrivé, il a mis un peu d'ordre là-dedans. En particulier, il y avait une délégation ministérielle à l'armement, il a regroupé les différents corps de l'armement, etc., de façon à ce qu'il y ait une unification dans les programmes d'armement. Il a poussé le CEA à l'époque vers une politique d'indépendance, il a lancé des grandes opérations comme le TGV, etc., il a créé le CNES pour qu'il y ait... Parce qu'à l'époque, avant le CNES, il y avait plein d'actions dans le domaine spatial, mais c'était dispersé, c'était les facultés, c'était les laboratoires, chaque laboratoire voulant de l'argent pour faire son petit truc, etc. Et De Gaulle a dit terminé, maintenant on va créer un organisme qui s'appelle le CNES, c'est lui qui va être en charge de coordonner tout ça. Et c'est ça l'important qu'a amené De Gaulle, c'est de mettre en place des structures pérennes et pas des comités interministériels pour décider, mais des structures pérennes et occupées par des gens du métier. Hein. Et ensuite il a fixé les objectifs, il a en particulier fixé que le rôle de l'État dans la recherche et développement devait être de 2% du PNB. Parce qu'il estimait que c'était essentiel pour l'avenir que la recherche soit poussée. Et c'est à ce moment-là que en 68, il était de 1,8%. Aujourd'hui, on est en dessous de depuis Pompidou, on est tombé en dessous de 1% parce que Pompidou a laissé tomber tout ça.
On est revenu aux chiffres de la fin de la 4e République.
Bah oui, ouais, parce que toujours pareil, des résultats à court terme, etc., etc. Mais donc De Gaulle avait une vue et il a fixé des grands programmes. Or, qu'est-ce qui fait des progrès ? Qu'est-ce qui fait faire des progrès à la technologie ? C'est les grands programmes. Qu'est-ce qui a fait faire des grands progrès aux États-Unis ? C'est le programme Apollo. Hein, le programme Apollo a dû retomber. Malheureusement, ça n'a jamais été expliqué. Moi, j'ai un ami, j'aurais bien voulu qu'il vienne ce soir, qui est docteur, qui me parlait des problèmes de dialyse, où la dialyse s'est développée essentiellement à partir des programmes spatiaux. Hein, c'est le programme Apollo, en particulier, avec tous les matériaux qu'on a développés à cette occasion-là, qui ont permis de faire cette expansion dans le domaine médical. Bon, s'il n'y avait pas eu ces grands programmes, il n'y aurait certainement pas eu les mêmes retombées.
Mais précisément, l'exemple est particulièrement éclairant. On peut rappeler que le grand programme d'Apollo, c'est la suite des discours fondateurs de Kennedy lorsqu'il arrive au pouvoir en 1960 et qu'il fixe comme nouvelle frontière la conquête spatiale et l'accès, l'alunissage, l'accès à la Lune avant la fin de la décennie. Donc on voit bien que là aussi, il y a une articulation assez précise entre politique scientifique, concentration des efforts de recherche et puis retombée industrielle.
Alors, vous connaissez, je vais vous donner l'anecdote quand même qui a amené Kennedy à prendre cette position. Kennedy, quand il était sénateur, était contre l'espace, comme la plupart des sénateurs américains. De même que quand De Gaulle a créé le CNES, tous les ministres étaient contre. Sauf Debré, peut-être, tous les ministres étaient contre. Et donc, il y a vraiment une volonté d'un homme. C'est pas simplement des partis, c'est un homme. Et donc Kennedy était contre l'espace. Et quand il se trouve que Jefferson, qui était son numéro 2, était le président du comité spatial, je sais pas comment ça s'appelait exactement aux États-Unis. Et Jefferson a dit à Kennedy, je vais vous faire rencontrer Von Braun. Et c'est Von Braun qui a convaincu Kennedy qu'il fallait faire non pas la conquête de la Lune, mais la conquête du système solaire, dont la Lune n'était qu'un premier pas. Et il y a eu une réunion, dont j'ai entendu moi l'enregistrement, dans le bureau de Kennedy, à la Maison Blanche, où il a réuni le patron de la NASA, il a réuni son conseiller scientifique, etc. Il leur a dit qu'est-ce que vous pensez d'aller sur la Lune et la conquête. Tous les avis étaient totalement négatifs, y compris le patron de la NASA, totalement négatif. Mais la Lune, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est mou, si c'est dur, on ne sait pas comment l'homme va se comporter là-bas, etc.
C'est une danseuse qui coûte très cher.
Et au bout d'une heure, Kennedy a dit bon, mais puisque c'est comme ça, on y est avant 10 ans. Voilà, c'est comme ça que se prennent les décisions, avec des gens comme Kennedy, des gens comme De Gaulle, des gens qu'on n'a pas connus depuis De Gaulle. C'est ça le problème de la France, c'est qu'on n'a pas connu des gens qui sont capables de prendre des décisions, quels que soient les avis, positifs ou négatifs, après les avoir écoutés naturellement, qui est autour de lui, parce qu'il y a une vision d'avenir que seuls des hommes de cette trempe peuvent avoir. C'est ça le rôle de Kennedy. Et Kennedy, aujourd'hui, les États-Unis vivent encore sur les retombées de ce que Kennedy a lancé, puisque il a mobilisé. Alors c'est là où son discours au Congrès était fondamental, où il a expliqué que c'était vraiment un challenge pour les États-Unis. Et toute l'industrie s'est mise sur le programme Apollo à l'époque. Et à ce moment-là, toute l'industrie a été lancée par cette opération-là. Et aujourd'hui, alors après, il y a eu 70. Les années 70, on a abandonné la Lune en 72, il y a eu les problèmes du Vietnam, etc. Enfin, on a arrêté le nucléaire aux États-Unis, c'était une période catastrophique pour les États-Unis. À ce moment-là, la NASA a licencié la moitié de ses effectifs et toute l'industrie a licencié la moitié de ses effectifs. Et il y en avait des centaines de milliers. Et ces gens-là sont répartis dans toute l'industrie américaine, dans l'automobile, dans le médical, etc. Et ils ont apporté la technique spatiale dans tous ces secteurs-là. Avec un certain temps d'adaptation, parce que vendre une voiture, c'est pas comme faire un missile. Et c'est ça qui a été le début du développement d'électronique et du développement de l'informatique le plus important. Parce qu'à l'époque, les composants, par exemple, le grand changement dans les composants, c'est quand on est passé au numérique. On a pu à ce moment-là faire des séries et baisser les prix de façon considérable. Avant, avec l'analogique, c'était pas possible. Eh bien, mais c'était limité à l'informatique. Mais à partir du moment où ça a été dispersé dans toute l'industrie américaine, c'est toute l'industrie américaine qui a bénéficié de ce développement des composants. Et à ce moment-là, les composants sont devenus civils. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les programmes militaires français ou les programmes aéronautiques se fournissent aux composants civils. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était les militaires qui décidaient les composants qu'on devait développer pour le futur. Oui, les retombées du spatial sont absolument considérables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le redépart vers la Lune et vers Mars vont apporter des retombées absolument fantastiques qu'on n'imagine pas. Oui.
Donc je retiens de votre intervention une double information. D'une part, l'importance de cet essaimage à un certain moment des cerveaux qui vont distiller, en quelque sorte, diffuser l'information qui a été capitalisée à un moment dans ces grands centres de recherche. Et puis, l'importance aussi de cette articulation entre recherche civile, recherche militaire, recherche de long terme et puis application à plus concrète, à plus court terme. Est-ce que c'est là une des spécificités qui a fait la force du modèle occidental, du modèle en tout cas kennedyen ou gaulliste dans les années 60?
Moi je crois que c'est ça, c'est le fait qu'il y a eu une diffusion de la connaissance qui était provoquée d'ailleurs par l'arrêt d'Apollo. Finalement, l'arrêt d'Apollo a eu un effet bénéfique, c'est que ces gens-là, au lieu de rester sur un programme, ont été obligés de se disperser dans l'ensemble de l'industrie, ont essaimé beaucoup plus rapidement que ça aurait été autrement. Mais ce qui montre aussi, c'est que les grands projets sont vraiment les moteurs de la création, parce que on fouille toujours des barres beaucoup plus hautes que ce qu'on sait faire, et c'est le fait de dépasser constamment les limites qui fait qu'on fait des progrès. Alors que des études en laboratoire, ça ne peut pas aller très loin s'il n'y a pas une application derrière qui permet d'aller plus loin.
François Cédier, vous avez un peu traversé cette époque, même si vous étiez évidemment très jeune dans les années 60. Qu'est-ce qui, selon vous, avec le recul, faisait la force à la fois morale, spirituelle ou scientifique de ces années, qu'est-ce qui permettait en quelque sorte de dire qu'il y avait un véritable élan à la fois humain, économique et scientifique dans cette période ?
Avant 68
oui,
ou après?
Dans les années 60, au tout début, à l'époque de Kennedy. Alors,
je vous avoue que je n'étais pas très conscient de ce qui se passait, parce que d'abord je n'avais aucune formation scientifique, ni universitaire, en quoi que ce soit. Donc je me contentais simplement de survivre, car c'était assez difficile. Les conséquences de la guerre et de tout ce que nous avons traversé en étant d'une extrême indigence. Donc pour moi, ces années-là, au niveau industriel et scientifique et universitaire, n'étaient pas du tout je ne les concernais pas, enfin, ne me concernais pas, parce que j'étais dans un autre monde.
Tout juste l'entrée dans la société de consommation. Donc les retombées scientifiques étaient encore assez modestes, où elles se diffusaient progressivement, mais pas de façon encore massive.
Non, absolument pas. Par contre, ce que je retiens de ces deux interventions, et particulièrement la toute dernière, c'est que les explications qui ont été données par nos deux amis sont remarquables de construction, d'analyse de ce qui s'est passé avant 68, à partir du moment où moi j'ai commencé à prendre conscience. Donc tout ce que je viens d'apprendre m'a enrichi d'une réflexion nouvelle et je suis tout à fait reconnaissant d'avoir entendu tout cela que j'ignorais. Mais à partir de ces dernières réflexions, il y en a une qui m'a sauté aux yeux, la dernière réflexion de M. Chiquet, en particulier, c'est que vous avez signalé le fait que je voyais les choses d'une façon un peu plus spirituelle ou littéraire, n'étant pas un scientifique. Et ce qui me saute aux yeux, c'est que, faute de visionnaire, mon peuple dépérit. Et les deux exemples qui ont été dits, que ce soit Kennedy ou bien le général de Gaulle, montrent bien qu'ils apportaient une impulsion qui était pérenne puisque on en bénéficie encore. Et tout le déroulement de la société, de l'industrie, de la recherche vivent encore sur ces lancées. Vous voyez? Et actuellement, nous sommes dans une phase où faute de visionnaires, faute de prophètes, faute de gens capables de se projeter, d'anticiper l'avenir, eh bien, nous sommes complètement en train de patauger dans nos petits problèmes de société, d'économie, et etc., etc.
Donc, dans l'éternel ressassement d'un passé qui ne passe pas et sur lequel on ne fait que macérer et on ne fait que se flageller. Oui. Mais précisément, en quoi, d'un point de vue plus sociologique ou plus anthropologique, considérez-vous qu'il y a là quelque chose d'assez important qui marque une apogée dans la vie de certaines sociétés à travers la constitution d'une sorte d'élan commun, de foi commune, que ce soit une foi en la science ou une foi dans l'avenir de son pays, et qui permet précisément à un peuple, à un moment donné de son histoire, de se rassembler autour de certains objectifs communs et de consentir à des efforts communs. On se souvient qu'un des titres principaux de l'œuvre littéraire du général de Gaulle, c'était « L'espoir ». Hein, et puis au fil de l'épée, il y a cette idée effectivement du combat, il y a cette idée de l'engagement, et il y a évidemment l'importance des grands hommes. En quoi, selon vous, ces éléments, l'élan, la foi, les grands hommes, sont-ils des catalyseurs peut-être d'une renaissance ou du développement d'un essor d'une société ?
Pas seulement catalyseur, mais c'est une dynamique et une force en action, de développement. Et qui entraîne derrière eux toute une génération de jeunes chercheurs talentueux qui vont explorer dans leurs compétences et leurs domaines toutes sortes de conséquences appliquées de leurs réflexions. Mais il a fallu au moins deux hommes pour sortir de ce que a représenté 68, parce que pour moi 68, ça a été une rupture de la transmission du savoir des anciens. Et du savoir de ces deux grands hommes. Bon, il se prouve que De Gaulle, lui, était sur la sellette à ce moment-là. Il était vraiment très, très embarrassé par tout ce qui se passait dans son pays. Et il lui fallait, tant bien que mal, essayer de réparer les dégâts de tout ce que représentait cette jeunesse manipulée par, naturellement, la gauche, le communisme, qui imprégnait leurs idées, etc. Et donc, pour De Gaulle, ça s'est arrêté là, son élan visionnaire. Mais il en demeure quand même les fruits qui ont été l'aérospatiale française et puis tout ce que notre ami a décrit comme fruits très positifs dont nous pouvons nous enorgueillir. Mais pour le reste, sur le plan sociétal, ça a été quand même un grand gâchis dans ce qui concerne l'enseignement, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne le développement des entreprises et de toute l'énergie qui fait qu'un pays peut continuer à progresser. En France, il y a eu un coup d'arrêt terrible à partir de 68.
Jean-Louis Cacomo, vous avez produit un certain nombre de textes et d'analyses récemment, et entre autres une contribution tout à fait remarquable et remarquée dans un ouvrage co-dirigé par Chantal Delsol, paru sous le titre, rappelez-moi, Liquider mai 68.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Qu'en est-il effectivement de cette période charnière? En quoi, par rapport au panorama que nous a décrit Pierre Chiquet, s'est-il produit là quelque chose d'absolument déterminant et peut-être d'irrémédiable dans l'histoire de France?
Alors, juste rebondir sur ce que dit monsieur, parce qu'il y a quelque chose qui m'a... D'abord, le remercier pour ce convitant, monsieur Cellier. Et effectivement, je suis un économiste, et souvent on pense que l'économie, c'est quelque chose de mécanique qui tourne tout seul, et la mathématisation, d'ailleurs, de la science économique contribue à faire quelque chose, à en faire une science quasiment inhumaine. Or, c'est vrai que l'économie, la dynamique économique est basée sur le fait que les individus font des choix. Et plus on a des individus qui ont de la trempe, plus ils vont faire des choix visionnaires, effectivement. Donc l'économie, elle ne peut pas être séparée de la psychologie, ou de la culture, de tout ce qui fait une société.
Du contexte d'une époque, de la joie de vivre,
voilà,
de l'élan.
Et effectivement, l'après-guerre, c'est quand même la France qui est libérée. Elle quitte une époque dure. Donc, même si les conditions de vie étaient dures, il y a eu une dynamique qui a porté les gens à s'inscrire dans l'avenir. Et effectivement, on ne prend des décisions que si on se voit dans l'avenir, si on se projette dans l'avenir, que ce soit une décision au plus haut niveau de la politique industrielle ou les décisions les plus microéconomiques de chacun de nous. Et à partir du moment où les individus ne se portent plus dans l'avenir, que leur seul souci c'est consommer, c'est-à-dire que du coup, n'ayant plus de projet, n'ayant plus de vision, bah effectivement, il n'y a plus de la dynamique se tombe par terre et il y a un déclin. Alors en effet, les événements de mai 68, ça a fait surgir quelque chose qui était là depuis un petit moment quand même. Ça s'est déclaré à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça a conduit à un décrochage, c'est-à-dire que le politique s'est trouvé dans une situation où il devait finalement éteindre les conflits de la rue. Mais j'ai l'impression qu'avec le recul, depuis, ça fonctionne comme ça. Les politiques n'agissent que dans l'urgence par rapport à la pression de la rue, par rapport à un incessant troisième tour social qui dit voilà ce qu'il faut faire. Je crois que c'est parti de 68 avec les accords de Grenelle. On a institutionnalisé une sorte de ce qu'on a appelé avec, diplomatiquement un dialogue social, mais quelque chose qui est complètement aberrant finalement. C'est-à-dire que sous la pression de la rue, on dicte ce que doit faire tel ou tel gouvernement et finalement il n'y a plus la trempe dont parlait monsieur, il n'y a plus de place à des visionnaires et à des porteurs de politique au sens le plus digne de ce mot.
Alors ce que vous nous dites là est tout à fait intéressant parce que ça souligne le fait que ce que l'on nous présente comme une grande avancée sociale et une grande, en quelque sorte, victoire politique qui met un terme au mouvement d'agitation, entre guillemets, de mai 68, est en fait au contraire une institutionnalisation de l'anarchie et de l'agitation. Parce que précisément, c'est la consécration de cette inversion des rôles entre le décideur et l'exécutant, entre le chef et le peuple, entre l'homme politique visionnaire et puis chacun à sa place, ceux qui sont en charge de mettre en œuvre, de penser, d'inventer, mais pas nécessairement de faire la tabula rasa et de vouloir à chaque fois refaire la révolution tous les matins.
Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aux dernières élections est tout à fait révélateur. C'est pour ça que j'ai été très intéressé de participer à cet ouvrage, parce que quelque part, bon, moi j'ai 45 ans, ça fait 40 ans qu'on me met dans la tête, il faut célébrer 68, c'est vraiment, on a l'impression que la France est née à cette époque. Avec le recul, j'ai un ressenti presque de ras-le-bol. Toute une génération a grandi sous l'emprise qu'il fallait pas critiquer mai 68, alors que quelque part, il faut peut-être maintenant se projeter dans l'avenir, non pas réécrire le passé. Et un passé qui bloque, qui ferme l'avenir. Alors effectivement, vous avez eu en 2007 un gouvernement qui est élu sur la base d'un programme. Il veut réformer les universités, il veut réformer le temps de travail, un certain nombre de propositions. Les Français tranchent. Et ce gouvernement, une fois qu'il va appliquer son programme, il y a la contestation de la rue, c'est-à-dire en plein anniversaire d'ailleurs de mai 68. Donc ça, effectivement, c'est une inversion, c'est une déviation du fonctionnement de nos institutions, parce qu'à ce moment-là, l'électeur se dit à quoi bon aller dans les urnes.
Mais je crois quand même que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on s'aperçoit que le mouvement de la rue est en train de disparaître progressivement. C'est-à-dire que les Français ont élu un patron qui n'avait pas eu depuis De Gaulle. Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Et le patron, il joue son rôle de patron. Alors évidemment, les vieux réflexes dans la rue, etc. Moi, je me rappelle le dialogue de Sarkozy avec je sais pas qui dans je sais pas quelle usine. Le gars disait, de toute façon, ça se passera comme toujours. Vous serez obligé de lâcher. Hein? Eh bien, ça, il lâche pas. Et les Français aiment ça. Parce que ils se rendent compte que, dans leur subconscient, que s'ils veulent vraiment aller de l'avant, parce qu'on a toujours envie d'aller de l'avant, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne bon. Et la baisse de popularité, je dirais, de Sarkozy est venue du fait qu'on avait l'impression qu'il lâchait. Oui, c'est contrairement à tout ce qu'on a pu dire à droite, à gauche, parce qu'effectivement, d'abord les journalistes connaissent, je ne sais pas s'il y a un journaliste ici, mais ils connaissent en général pas leur sujet, hein, et donc ils cherchent le petit truc scandaleux. Mais sur le fond, c'est bien ça. Les Français veulent avoir quelqu'un qui leur donne une vue d'avenir. C'est pour ça que De Gaulle a eu un succès fantastique, parce qu'il a porté un souffle, alors que les gens étaient là, ils étaient le pied prêt à démarrer, ils avaient déjà fait leur preuve, ils étaient prêts à continuer, mais en mai 68, on a tout arrêté. Pompidou a arrêté la recherche. Il a dit, je veux des résultats immédiats. Moyennant quoi, la recherche qui était à 2% du PNB, il l'a ramené à 1%. Et on n'a pas bougé depuis. Alors 1% sur 30 ans, vous voyez ce que ça peut donner en intérêt composé dans le monde de la recherche. Je peux faire la liste de toutes les industries qui ont disparu en France. C'est quelque chose de fantastique depuis De Gaulle, depuis Pompidou. C'est fantastique. On a vu disparaître la machine outil, on a vu disparaître. J'ai fait une liste non exhaustive de tout. Disparaître la machine outil et tout ce qui est manutention. On était parmi les meilleurs dans la machine outil à l'époque. La machine outil a disparu. Les derniers morceaux de machine outil, moi je les ai connus chez Renault. On a donc confié à Renault ce qui restait des construction de Clichy, etc., etc. S'il y avait eu De Gaulle ou des gens comme ça, il aurait dit, bon, ben on est à un virage dans la machine-outil, on est en train de passer à la machine-outil numérique, la machine-outil avec l'électronique, créons des jeunes équipes de jeunes, comme il a fait avec Knuckles, avec des jeunes, et disant, vous allez développer des machines numériques. Et c'est les Japonais qui ont fait le boulot, et après, il y a les Allemands qui ont ramé derrière, les Suisses ont disparu, les Italiens ont disparu, les Français ont disparu, il n'y a que les Américains et les Allemands qui ont réussi à survivre par rapport à ça, puisque les Allemands ont toujours eu le respect de leur industrie, et plus que le respect, ils ont toujours poussé leur industrie, alors que en France, l'industrie a toujours été considérée comme vraiment des gens à qui il faut pas parler, parce que c'est des gens qui s'en mettent plein les poches.
Écoutez, à l'entendre, cela me fait penser à un témoignage très précis et très vécu, à savoir mon propre fils aîné qui a fait aujourd'hui ses 41 ans. Il est un passionné d'aéronautique, d'aviation, c'est un créateur de machines volantes. Il est devenu le numéro 1 mondial dans les gyrocoptères, par exemple, et là il en sort un numéro à 3 places, etc. Enfin, Monsieur Chiquet doit savoir exactement ce que ça signifie. Mais il s'est trouvé que pendant 38 ans, conséquence de mai 68, il a tellement ramé en France, tellement été découragé, il y a eu tellement d'entraves autour de lui, de contraintes, de charges, de taxes, il n'en pouvait plus. Il est parti il y a 2 ans à Varsovie. Il a créé son entreprise là-bas. En 2 ans, il a créé une usine de 30 ouvriers techniciens. Il est devenu numéro 1 mondial dans sa partie. Et il continue à faire d'autres inventions. Il me dit, il veut plus entendre parler de la France. Il a été découragé à un point que c'était presque la déprime profonde. Parce qu'il n'y avait pas d'homme qui était capable, comme si vous avez entendu à l'époque, peut-être il serait resté un peu dans le pays. Mais sinon, il n'y avait pas d'homme capable de le galvaniser, de le stimuler. Or, il y a un potentiel extraordinaire parmi les jeunes. Mais ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de leader, ils n'ont que des politiciens, ils n'ont que des syndicats et toutes sortes d'enseignants gauchistes parlant de toutes sortes de passés, de pensées arriéristes. Et bref, il n'y a aucun encouragement positif pour les jeunes d'aujourd'hui.
Alors c'est intéressant parce que ça nous montre qu'en un sens l'avenir est peut-être en Pologne, ce qui est une aimable inversion des rôles. On se souvient que lorsque Boris Yeltsin est arrivé en 1994 en France, il a dit « je suis heureux d'arriver dans le dernier pays communiste de l'histoire ». Les gens ont ri en se disant « c'est encore une parole d'ivrogne », mais je pense qu'il était très sérieux quand il a dit cette phrase.
Il n'y a pas qu'en Pologne, la Silicon Valley aux États-Unis était à moitié française, on l'oublie. Et on oublie aussi que les États-Unis, tous leurs laboratoires sont faits à l'étranger pour la plupart du temps. Hein, et ils vont chercher ailleurs. Et j'ai un exemple. Mais alors il y a aussi une chose qui s'est passée, c'est que tous ces secteurs industriels ont disparu les uns après les autres. Et on a utilisé des méthodes complètement absurdes, comme le FNE dont on parle, dont on va, qu'on va supprimer.
Qu'est-ce que le FNE ?
Alors, le FNE, c'était une organisation, une chose qui a été créée, je ne sais plus exactement à quelle date, qui permettait aux industriels de faire partir les gens à 56 ans et 3 mois. Et ensuite, ils étaient pris en charge par l'État, pratiquement jusqu'à 60 ans. Ensuite, ils prenaient le relais. Moi, j'étais chez Peugeot à l'époque. Il y avait des réunions tous les mois où on faisait la liste des gens à faire partir. C'était ça. C'était M. Calvé, à l'époque, qui était président. J'étais président d'une filiale. J'étais avec les grands responsables. Chacun apportait son plan de départ, etc. Et le FNE, la rentabilité du FNE à partir à 56 ans, coûtait à l'entreprise maximum 6 mois de salaire. Vous voyez, une rentabilité en 6 mois. C'était un encouragement au départ qui était absolument fantastique. Et il y a eu un abus considérable de ces départs de FNE et on mettait à la retraite à 56 ans des hauts spécialistes, techniciens, mécaniciens, etc. Moi, j'ai connu ça au GIAT encore plus. J'ai été obligé d'en faire partir comme ça. Mais quand je suis parti du GIAT, on a mis à 52 ans, c'était M. Millon qui était ministre de la Défense à l'époque, à 52 ans, on a fait partir des gens qui étaient les premiers mécaniciens. Le GIAT à l'époque était la première société mécanique de France. Quand j'étais là. Eh bien, on a fait partir ces gens à 52 ans, leur offert soit des postes d'infirmiers, soit des postes de gendarmes, etc. Enfin, même pas de gendarmes, etc. Alors que ces gens, c'était des mécaniciens de très haute qualification. Et on m'a cité le cas, aujourd'hui, en Allemagne, d'un Français qui a 82 ans, qui est spécialiste dans le traitement des céramiques, qui est un métier très difficile, où il faut, paraît-il, 20 ans pour acquérir une compétence. Et les Allemands ont été récupérés, ce monsieur qui était à la retraite, qui était le spécialiste, et il travaille actuellement à 82 ans dans l'entreprise allemande, il est en train d'apprendre aux ouvriers allemands comment on fait, etc. On a complètement perdu, on a cassé complètement le lien, et vous avez connu également, je m'excuse, c'est un petit peu long, mais vous avez également connu cette démarche qui était de dire, on est dans une ère post-industrielle. C'est l'ère des services. Or, les services ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'industrie. On a oublié que la richesse, c'était l'industrie. Et ce n'était pas les services. Les services sont au service. Ils ne sont pas des créateurs. Hein, alors, ça ne veut pas dire que dans leur métier, ils n'apportent pas des solutions astucieuses. Mais c'est l'industrie, on a dit, l'industrie ne crée plus d'emplois, donc il faut plus s'intéresser à l'industrie. Or, l'industrie ne crée plus d'emplois parce qu'il n'y a pas de recherche. C'est pas parce que et les industriels, au départ, ont créé les sociétés de services. Michelin, Peugeot, moi, quand j'étais chez Peugeot pendant un certain temps, Peugeot avait son supermarché. Il avait Michelin avait créé des logements pour son personnel, etc. Et quand ils sont rebâtis sur leur corps de métier, ils ont tout passé ça à l'extérieur. Même l'informatique, par exemple, des sociétés comme Peugeot, toute l'équipe d'informatique de Peugeot a été passée à Capgemini. C'est-à-dire que Peugeot ne fait plus lui-même sa propre informatique. Alors on dit les sociétés de services créent des emplois, forcément, mais puisque les industriels l'ont passé aux sociétés de services. Alors l'avantage, c'est que les sociétés de services peuvent travailler pour plusieurs industriels et développer des compétences. Mais l'industrie, c'est ça qui crée notre protection, parce que dans certains métiers, il faut 20 ans pour apprendre, et on ne copie pas comme ça l'industrie. Alors que le service, vous prenez le gars dans l'entreprise de service, vous l'emmenez avec vous, il recrée sa société, et tout le know-how fiche encore. D'autre part, il n'y a rien qui est plus décentralisable que le service. Regardez les banques aujourd'hui, les compagnies d'assurance, elles vont au Maroc. Hein, donc, c'est là où l'Angleterre était pire que nous, puisque les Britanniques, c'est là où ils ont mangé leur pain blanc, parce qu'à force de supprimer leur industrie au profit des services, il y a un moment où ils ne vont plus avoir rien du tout. Donc vous voyez, je crois que toutes ces fausses idées qui sont issues finalement du laxisme de mai 68 font que progressivement on a ramené l'industrie on a quand même perdu Pechiney, on a quand même perdu Usinor, on a quand même perdu Crozes-Loire qui a fait faillite, Alstom, Sarkozy l'a sauvé de justesse, et actuellement regarde ce qu'il fait avec les chantiers de l'Atlantique. Il y a une volonté aujourd'hui de dire mais il a fait une enquête, on m'a dit qu'il avait fait une enquête récemment sur quels étaient parmi les secteurs stratégiques de la France où étaient nos manques. Il paraît qu'il y a 75% de manque dans notre industrie de stratégique. Et ça s'explique parce que les know-how, petit à petit, sont partis, les gens compétents, les gens de métier. On a tué les métiers, ce qu'on développait considérablement à l'époque. Le compagnonnage à l'époque, les artisans, tout ça, toute cette tradition, on l'a retrouvé dans l'industrie, mais on a tué les gens en les mettant à la porte à 52 ans, 53 ans, etc. Vous savez que pour mettre Usinor a mis les gens à la porte à 50 ans. Vous savez combien ça coûte de mettre quelqu'un, de le faire partir? Vous ne le mettez pas à la porte, on le mettait en retraite. Ça coûte 3 ans de salaire. 3 ans de salaire. Vous croyez que ces 3 ans de salaire, on n'avait pas pu l'utiliser à autre chose? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a demandé à l'industrie automobile d'aller s'installer dans l'Est, pour prendre justement la place de l'industrie sidérurgique. Les salaires offerts par l'automobile étaient 20% inférieurs à ceux de la sidérurgie. Moyennant quoi, les gens des sidérurgistes ont dit, nous on veut pas aller dans l'automobile, on préfère ne rien faire. Il aurait été facile à l'État, au lieu de donner 3 ans de salaire pour faire partir les gens de la sidérurgie, de payer la différence de salaire entre l'automobile et la sidérurgie pour qu'on utilise les gens de la sidérurgie dans l'automobile, au lieu de faire venir à grands frais tous les immigrés qui sont venus à ce moment-là parce que les Français, il n'y a plus de Français pour faire le travail. Oui, tout ça, c'est un ensemble de politiques d'abandon, etc., qui font qu'on est dans la situation où on est aujourd'hui. Alors je pourrais citer des exemples comme ça à l'infini.
Nous allons y venir et effectivement détailler un peu davantage immédiatement après une courte page musicale et surtout la présentation de la grande fête de Radio Courtoisie à laquelle je vous convie évidemment de mon côté. J'aurai un stand le dimanche 15 juin et plusieurs des invités ici présents seront à mes côtés pour dédicacer leur ouvrage.
Dimanche 15 juin, fête de la Courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, rue Jean Ostrecher, Paris 17e, métro Porte de Champéret et Louise Michel. Entrée 15 euros, entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents, 5 euros pour les étudiants.
Oui, toujours sur le Libre Journal des Sciences de Radio Courtoisie, animé par votre serviteur David Mascret. Dans le droit fil de ce qui vient de vous être dit, et cette fête de Radio Courtoisie du dimanche 15 juin à laquelle nous vous convions et où nous vous attendons tous, je voudrais en profiter pour vous signaler que dans le cadre stand de la fête de Radio Courtoisie, au stand de Gérard Marin, vous aurez la possibilité de rencontrer de 14h30 à 18h30 Yvan Rioufol, qui dédicacera son dernier livre, paru aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 13, livre intitulé « Le bloc-notes de la présidentielle, où va la France ?», ouvrage paru aux éditions de Passy. Vous nous évoquiez à l'instant, Pierre Chiquet, toute l'importance de cette rupture de mai 68 et ses conséquences sur le plan industriel. J'aimerais aller un peu plus en détail avec vous et avec l'ensemble de nos invités de ce soir dans cette question, mais peut-être aussi en sondant les causes de cette rupture, parce qu'elle n'est pas tout à fait venue au hasard. Un ouvrage tout à fait remarquable est paru récemment qui s'intitule « Ils ont tué Pierre Auvernet ». Ouvrage paru sous la direction de Norman Sportes et accessible aux éditions Grasset. Et à travers cet ouvrage, Norman Sportes nous retrace toute une histoire du gauchisme des années 70. Car ce que l'on oublie, c'est qu'effectivement, si mai 68 a été une sorte d'agitation estudiantine, ce juin 68, c'est le commencement véritable de tout ce travail de sape mené par les mouvements gauchistes. Qui va effectivement, nous allons le voir, profondément traverser, subvertir la société française. Le jeune Pierre Auvernet, ouvrier maoïste de 24 ans, est tué par un vigile de la régie Renault le 25 février 1972 à Billancourt. Une semaine plus tard, 200 000 personnes accompagnent celui qu'ils appellent désormais Pierrot au cimetière du Père-Lachaise. Parmi elles, des figures illustres de l'intelligentsia de gauche, autoproclamées, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jean Genet, Marguerite Duras, André Glucksmann, Marie-Josée Natte, Simone Signoret, Jean-Luc Godard et Jane Fonda, qui défilent tous en rang serré derrière d'immenses portraits de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao. C'est l'enterrement du gauchisme, prophétisera quelques jours plus tard Louis Althusser, comprenant qu'un sommet avait été franchi dans l'absurde par les gardes rouges français. 18 mois plus tard, les dirigeants de la gauche prolétarienne décidaient l'autodissolution de la gauche prolétarienne et renvoyaient chacun à ses affaires, les ouvriers à leurs machines-outils et les Mao intello à leurs livres. À travers cet ouvrage, Morgan Sportes remet les événements en perspective autour de la mort de Pierre Auvernet à la manière d'un auteur de polar. Mais son livre est aussi une enquête et un récit des illusions perdues, nouvelle manière. Et il nous retrace le lien qui a pu exister entre cette gauche prolétarienne en constitution et le sabotage véritablement de l'appareil de production, l'appareil de développement de l'industrie française et de la recherche française. On en a un témoignage assez net et tout à fait intéressant à travers le récit que Pierre Victor, qui est l'alias de Benny Lévy, qui était le secrétaire particulier de Jean-Paul Sartre, fait lui-même de son expérience de juin 68. Et il fait, de façon tout à fait instructive, de juin 68, et non pas de mai 68, le point de départ de son activité dans ce militantisme de la gauche prolétarienne. Dans un récit rapide et autobiographique, il explique que juin 68 a été le baptême du feu, en quelque sorte, de son mouvement, qu'il y a eu ensuite constitution formelle en septembre 68 du mouvement qui va déboucher sur la création de la Cause du Peuple, le grand quotidien qui donnera plus tard naissance, après la dissolution, à Libération dans les années 73. Et la Cause du Peuple va reprendre le titre du mouvement de soutien aux luttes du peuple. Qu'est-ce que ça signifie au moment où Pierre Victor crée cet organisme? Eh bien, c'est l'idée de réunir un groupe de camarades unifiés sur la base de la lutte contre les positions liquidatrices de mai 68, c'est-à-dire qu'il faut prolonger mai 68, mais d'une façon beaucoup plus clandestine et subversive, à travers l'infiltration des appareils d'État. L'idée essentielle, c'est de passer à une militarisation et à une militarisation violente du mouvement à travers la subversion des ouvriers et le noyautage justement d'un certain nombre d'unités de production. Et c'est là qu'il est intéressant de voir comment, à travers l'établissement, ces gauchistes sont allés directement sur les lieux de production, en particulier à Sochaux, vous évoquiez le modèle de Peugeot à l'instant. Pierre Victor explique: l'expérience de Sochaux, comme expérience proprement ouvrière, a été la plus avancée. À Renault-Billancourt, par exemple, l'occupation a été très inerte, très bureaucratique, et les jeunes, pour briser avec cette occupation, sortaient de la boîte pour aller dans les manifestations étudiantes. Au contraire, à Sochaux, jeunes et vieux, ensemble, ont affronté la répression, d'où ils ont pu tirer ensemble des leçons et réactiver leurs vieilles traditions. Et Pierre Victor, dans son témoignage, de façon tout à fait intéressante, rappelle que à cette époque, il y a eu quand même 8 à 11 CRS tués, non pas des ouvriers. On nous présente toujours mai 68 comme un grand mouvement jovial, estudiantin, agréable, mais en fait, il y a une tradition véritablement violente, brutale, voire mortifère dans les mouvements qui sont nés de mai 68, qui sont des mouvements qui ont débouché très rapidement sur l'action terroriste, que ce soit en Italie immédiatement après, avec les Brigades Rouges, ou à plus long terme, en France, avec l'héritage d'Action Directe. Et là, me semble-t-il, il y a toute une histoire qui n'a pas été faite, qui permettrait de comprendre ce qui s'est passé dans des unités de production, à Flins, à Sochaux, à Lippe, chez Lippe, et comment une subversion très profonde de l'appareil industriel et de recherche français s'est mis en place. Parce que les noms que j'ai cités, évidemment, sont des noms qui ont après investi aussi l'appareil de recherche et l'appareil universitaire français. Plusieurs d'entre eux, évidemment Sartre et ses émules, Bernard-Henri Lévy, mais André Glucksmann, sont devenus directeurs de recherche au CNRS. Ça n'est pas rien. Et là aussi, me semble-t-il, il y a eu des mouvements de subversion importants. Alors sur cette question, Xavier Guillou, en quoi le mouvement de 68, à votre avis, a-t-il marqué une rupture et de quelle manière, plus précisément, cette rupture s'est-elle engagée?
Je ne sais pas si on peut parler de rupture. Je dirais, c'est une grande imposture. C'est surtout une transformation dans le mode opératoire des mouvements communistes de l'époque et des mouvements trotskistes de l'époque. Je crois qu'il faut, moi c'est mon analyse, hein, mais pour bien prendre conscience de ce qui s'est passé, il faut prendre un peu de recul, se rappeler tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, notamment la montée en puissance de ce mouvement internationaliste, qui s'est retrouvé confronté à la Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble des mouvements gauchistes, notamment communistes, ont pris une place assez marquante. Enfin, je veux dire, d'abord aux côtés de l'Allemagne, puis après contre l'Allemagne, enfin avec je dirais des mouvements de fond qui sont toujours très contestables, et avec en arrière-plan quand même une stratégie de prise de contrôle d'un certain nombre de pays qui étaient notamment l'Italie et la France. Qui était très très bien travaillé sur le terrain avec une infiltration de l'ensemble des réseaux de décision, y compris dans notre préfectoral, y compris dans des dispositifs assez sensibles, tant sur le plan temporel qu'intemporel, puisqu'il y a même eu, même l'Église a été infiltrée à ce moment-là. C'est des choses qui ne se savent pas beaucoup, mais il faut le savoir.
On peut rappeler que des centaines de prêtres ont défroqué littéralement quitté le séminaire.
Donc il y a eu une stratégie.
Ont été véritablement noyautés.
Il y a une stratégie d'infiltration du Parti communiste international qui a été très très importante. Alors il y a eu la revendication d'une partie au moment de la libération de la France, pour essayer de prendre le pouvoir par le haut, et il y a eu toujours un travail en profondeur pour essayer de tenir des terrains, aussi bien sur le plan local au niveau des collectivités humaines, hein, qu'elles soient en campagne ou en ville, avec des modes opératoires très différents, et puis dans la partie industrielle. Il faut se rappeler quand même que cette France des années 50, on était quand même à 50% de population urbaine, 50% de population rurale, donc il y avait plein de modes opératoires qui étaient très différents. Entre les années 50 et entre les années 45 et 68, eh bien, la France est devenue très urbaine, hein, puisqu'on est passé à 80% de population urbaine. L'urbanisation s'est faite très rapidement avec la reconstruction. Elle s'est faite avec la reconstruction. Et l'ensemble de ces mouvements-là ont eu du mal à asseoir leur emprise sur le plan politique, parce qu'ils ont eu quelques leaders en face d'eux, notamment le général de Gaulle, qui a marqué le terrain. Qui a passé des accords ou qui a été en désaccord, enfin bref, qui a marqué le terrain et qui a marqué de son empreinte. Donc il ne pouvait plus continuer avec une stratégie politique conventionnelle. Et donc 68 a été la transformation pour moi du mode opératoire et une transformation qui a plutôt valorisé une stratégie d'infiltration de l'ensemble des circuits de décision par le bas. Et par le bas, en étant très présent en entreprise, sur le terrain de la vie politique localement, mais aussi sur le terrain éducatif, sur le terrain médiatique, parce qu'on oublie ce fait-là, mais on était rentré dans une société qui devenait de plus en plus médiatique. Ils ont pris le pouvoir de la télévision, mais ils l'ont pris aussi sur le plan culturel. Et puis progressivement, ils ont anéanti, je dirais, toutes les dimensions de réaction que l'on peut avoir sur le plan philosophique ou spirituel. Et par ce noyautage par le bas, ils ont progressivement enserré comme un cancer l'ensemble du système décisionnel, c'est-à-dire que c'est plus une approche par le haut, par la bataille politique, mais c'est une approche par le bas, par du réseautage, hein, et par avec des structures qui fonctionnent en noyau. Alors, ces structures en noyau, on les a bien connues en entreprise, parce que notamment les mouvements les plus durs, quand on avait sous plan syndical on avait des cellules, ces cellules qui étaient organisées avec quelques hommes, et c'était quasiment une organisation militaire sur le terrain. Enfin, les usines Renault ont bien connu ça après 68. Enfin, il a fallu traiter, je dirais, de point par point pour arriver à déverrouiller cette cancérisation du terrain, quoi. Et puis aujourd'hui, ils sont installés. Ils sont installés parce que, en vieillissant, ils sont des niveaux N-5 et N-6 qui sont contrôlés, mais il y en a quelques-uns qui sont rentrés dans les niveaux supérieurs et qui, aujourd'hui, occupent des postes non négligeables, y compris dans la haute fonction publique, y compris même dans nos entreprises, etc. Enfin, je dirais que l'esprit 68 est aujourd'hui imprègne complètement notre société. Je dirais un peu comme un cancer, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus de leaders, si certains leaders ont été consommés par l'effet des événements, etc., et de l'histoire, l'esprit est là.
Ils ont largement survécu parce qu'ils occupent un nombre.
Oui, ils ont bien survécu. Ils ont bien survécu parce que ce sont quand même eux qui sont en grande partie les leaders de ce qu'on pourrait appeler ou des bobos ou de la gauche caviar qui dirige notre pays en grande partie. Mais pas uniquement que de la gauche caviar, parce qu'il y a des gens qui sont aussi qui se recommandent, je dirais, d'un esprit de droite, qui sont empreints de cet esprit 68 art.
Enfin, il y a une sorte de pacte Pompidolo gauchiste, on peut dire.
Non, je pense que c'est une déviance de l'esprit, enfin c'est une déviance cérébrale. Ce sont les neurones qui sont attaqués. Je veux dire, c'est pas simplement même certains. Oui. Je pense que certains, si vous voulez, dans leurs propos contestent 68, mais ils sont atteints dans leur propre raisonnement. Enfin, je vous écoutais tout à l'heure, Monsieur Fiquet, avec beaucoup d'intérêt quand vous parliez de ce qui s'est passé dans ce monde industriel et ce monde économique que nous avons bien connu tous les deux. Je crois que 68, si vous voulez, a mis fin à un certain savoir-être et à un certain respect du savoir-faire qui a été à la base de notre société industrielle et puis même de l'émergence de cette société moderne dont nous sommes issus. Et on a, derrière cette grande fête qui a été pour moi une grande imposture, enfin, d'adolescent plutôt habitué à un certain confort qu'à des choses, je dirais, préoccupantes au niveau existentiel, et qui ont mis en valeur plutôt la culture du faire savoir ou du savoir-faire faire. Hein, c'est-à-dire cette culture où finalement on est dans le discours, on est dans le verbe, et on est dans la dilution de la responsabilité, de l'autorité et de la décision. Savoir-faire faire, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que finalement on va délocaliser un peu partout dans le monde, on va faire faire aux autres, hein, et puis comme ça nous on n'en tirera finalement que les dividendes les plus agréables, celles qui sont liées au service, celles qui sont liées à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'assistance à maîtrise d'œuvre, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme responsabilité lointaine vis-à-vis de l'exécution de tâches ou d'exécution de choses à faire. C'est toute cette génération a amené une dilution de la décision de la responsabilité dans notre société qui est très grave. Parce que quand vous parlez de où va la France, je me suis un petit peu exprimé sur la question il y a 2 ans.
Pour moi, elle va quand la France réagira.
Ouais, pour moi, elle va droit dans le mur. Là, elle va droit dans le mur. Et même si certains peuvent approcher le mur plus rapidement, ce serait ce serait presque apprécié par nos dirigeants, quoi. Je pense que on est aujourd'hui dans une situation qui est gravissime parce que cette génération-là nous a amené dans cette imposture de la non-décision, de l'indolence, de l'inertie et je dirais du vide. Et aujourd'hui, on va faire croire aux gens qu'on va redonner de la croissance, redonner de la matière, du contenu à une société qui ne sait plus faire, qui ne sait plus ce qu'elle veut, qui ne sait plus même pas ce qu'elle ne veut pas. Enfin, je veux dire, et qui est un peu paumée et un peu larguée. Et je pense que le problème numéro un que nous avons, c'est de remettre des repères, de remettre des référents. De remettre de l'éducatif là où il n'y en a plus, là où il n'y en a plus aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont arrivés, au bout de leur mission, enfin leur mission qui consistait en grande partie à nous empêcher de penser, à nous empêcher de décider de notre cheminement, de notre existence, etc. Et donc à être captable par n'importe quel maître d'œuvre extérieur. Et je pense que dans ce domaine-là, si vous voulez, j'ai parlé du Parti communiste international. Je pense que dans ce domaine-là, il y a des réseaux actifs qui ne sont pas forcément inactifs à l'heure actuelle.
Alors c'est précisément le point sur lequel je voudrais rebondir, Xavier Guillou, parce que il me semble que toutes les leçons n'ont pas été tirées de ces stratégies d'infiltration et de subversion qui ont été menées. Et précisément que la manière même dont on a célébré les 40 ans de mai 68 le mois dernier est une révélation quant à cette capacité d'occultation de ce qui a été en jeu dans ces mouvements et de la logique absolument subversive et quasiment terroriste qui les a caractérisés. Et on peut pourtant disposer d'un certain nombre de témoignages qui nous éclairent sur ces phénomènes et qui continuent d'être à l'œuvre aujourd'hui. Toujours en citant donc Benny Lévy alias Pierre Victor, celui-ci expliquait que contre effectivement le parti communiste dominant de l'époque, il y avait ces mouvements maoïstes en recomposition qui avaient pris naissance autour d'Althusser, c'est-à-dire en plein cœur de l'école normale supérieure, dans ce qui s'appelait à l'époque des appareils idéologiques d'État, mais que ces hommes avaient parfaitement su infiltrer, c'est-à-dire récupérer comme des anarchistes d'État. Les deux principes...
Althusser, qui, je rappelle, a tué sa femme parce que sa femme lui avait dit qu'il était devenu complètement fou. Hein.
Oui, donc Althusser est un philosophe spécialiste de Marx qui avait prôné un retour à la lecture fondamentale et fondamentaliste de Marx et qui voyait là une manière de lutter, en quelque sorte, contre ce qu'il appelait le révisionnisme léniniste du Parti communiste français rattaché à Moscou. Donc, en fait, être révolutionnaire pour Althusser, c'était revenir à la lettre de Marx. Mmh. Et c'est sur cette base althusserienne qu'en fait toute une équipe de normaliens a progressivement pris corps en donnant naissance à la cause prolétarienne et en cherchant non seulement à subvertir une partie de l'université mais aussi les appareils de production français à travers une doctrine qui était tout à fait constituée. Béni Lévy explique dans son témoignage que les deux principes sur lesquels, dans la pratique, se reconnaissaient les acteurs, c'était sur d'un côté la prolétarisation et de l'autre la militarisation. À partir de cette position de départ, prolétarisation et militarisation, la force gauchiste naissante s'est attachée à réunir les ouvriers qui pouvaient être réunis. Donc tout de suite, les militants, dit Pierre Victor, ont eu comme tâche centrale de renouer avec les entreprises où ils avaient travaillé, celles avec lesquelles il était possible de renouer. Il était inutile de renouer avec les boîtes où les militants avaient disparu, mais par contre, il était possible de le faire dans des entreprises comme Citroën, Renault. Tout cela nous a amené, nous autres gauchistes, dit Pierre Victor, en janvier 69, à une assemblée ouvrière nationale où on a réuni les militants ouvriers des différentes entreprises avec lesquelles on avait repris contact, pour faire le bilan d'expérience et voir un peu où on en était au point de vue de la tactique. Ça a été une très importante réunion parce que cela nous a permis de nous dégager totalement de la ligne syndicaliste prolétarienne. Et là, ces mêmes hommes arrivent à Flins à investir une partie de l'appareil de production, à subvertir les forces prolétariennes qui étaient établies, et donc a provoqué une véritable émeute, donc il va déboucher sur la mort de chiffres aussi entre 2 et 11 CRS, mais le témoignage que les Mao de l'époque, Mao Spontex, puisque précisément ils étaient partisans du spontanéisme, recueille, c'est que la prochaine fois que les ouvriers de Sochaux recevraient les CRS, la prochaine fois c'est avec des flingues que nous les accueillerons, disaient les ouvriers qui avaient été en quelque sorte endoctrinés par ces intellectuels en herbe qui, sous couvert d'intériorisation et d'accompagnement, en fait, avaient véritablement mené un travail de subversion. Alors, en quoi peut-on considérer...
Cette pensée-là justifiée après, quelques années après, enfin, l'exécution sommaire d'Audran et de Georges Besse. Hein. Je veux dire...
Ça a été la logique absolue, effectivement.
Vis-à-vis de l'opinion publique, je veux dire que ces assassinats rentraient dans une continuité, je dirais, comme vous le dites, de prolétarisation et de militarisation du terrain. Et c'est pas étonnant que certains de ces doctrinaires soient aujourd'hui en plein accord avec certains mouvements, je dirais, islamistes, qui pratiquent exactement la même chose sur leur terrain, mais avec d'autres approches, je dirais, fondamentalistes.
On peut rappeler
c'est
ici...
C'est la même déviance.
Oui, hein. Je voudrais rappeler ici un document tout à fait intéressant qui est tiré de la gauche prolétarienne, qui est la déclaration d'Alain Gesmard à son procès en octobre 1970. Alain Gesmard est donc un des trois leaders du mouvement étudiant de mai 68. Aujourd'hui, inspecteur général de l'éducation nationale, donc au plus haut poste dans la décision. Et il explique, au moment de son procès, le 27 mai, la bourgeoisie a par deux fois provoqué les masses populaires, elle a prétendu juger les directeurs de la cause du peuple, elle a prononcé la dissolution de la gauche prolétarienne. Face à cette double provocation, la riposte a été violente et de masse. Pendant deux jours, des milliers de jeunes ont affronté les hordes policières, notez le mot, en plein cœur du dispositif de bouclage. C'est la première fois depuis mai 68 qu'un affrontement d'une telle ampleur s'est produit. Les jeunes qui se sont battus ne l'ont pas fait pour n'importe quelle liberté, n'importe quelle presse, pas non plus pour soutenir n'importe quel mouvement. Ils se sont battus parce qu'attaquer les maoïstes en 1970, c'est attaquer le peuple. Et Gesmard, c'est l'introduction de son plaidoyer, dans la conclusion, dit « Nous voulons construire un homme nouveau. Pour cet homme nouveau, le pain et les rosées seront la réalité quotidienne. Ce monde nouveau et lumineux, notre peuple n'est pas seul à lutter pour le faire naître sur notre planète. La tendance générale est à la révolution, comme l'a dit Mao Tse-tung. À nos côtés se dressent le grand peuple chinois, le peuple vietnamien et les autres peuples d'Indochine qui rejettent à la mer l'agresseur Yankee, le peuple palestinien qui donne au monde de nouvelles leçons d'héroïsme, le peuple afro-américain qui porte le fer au cœur de la métropole impérialiste et de tous les peuples du monde. L'ouvrier de Shanghai, le Black Panther sont nos compagnons de combat pour la liberté, pour le droit de vivre. Organisons-nous, car c'est l'heure de la relève, construisons le parti de ceux qui luttent pour vivre et qui vivent pour lutter, le parti de la résistance. Le pouvoir est au bout du fusil. Et quant à vous, messieurs les juges, comprenez que nos véritables dirigeants sont les masses. Si vous voulez juger les dirigeants des maoïstes, il vous faudra aller jusque dans les ateliers. Les travailleurs vous y attendent. Les ouvriers sont nos maîtres. » Je pense que là, il y a un morceau d'anthologie qu'il est bon de rappeler pour comprendre, effectivement, ce qui s'est produit et ce qu'a été aussi une partie cachée de mai-juin 68.